Bonjour, c'est l'émission de la déprave.
On ne naît pas hétérosexuel, on le devient pas toujours.
La déprave,
une émission transpédéguine et féministe.
Ni homme, ni femme, transpédéguine.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission transpédéguine et féministe.
Laissez des mots.
Ça ouvre l'esprit.
Michel Gobert, mixing the music.
Mon Dieu, vos normes sont trop étroites pour nos réalités.
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 Rêve de princesse, vie de cauchemar.
Une émission transpédéguine et féministe.
New Modern Blondie. Because there's no limit.
La déprave. La déprave, la déprave, la déprave, la déprave.
I think she looks great.
Brave, la déprave.
I think they're marvelous people.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre intégration, c'est la désintégration de nos passions. Nous ne cherchons pas à imiter ceux qui nous ont constamment réprimés. Vos images, vos clichés, vos jouissances virtuelles et marchandes ne nous intéressent pas. Nos amours et nos sentiments ne se normalisent pas. Nos corps ne se commercialisent pas.
Sauf si c'est notre choix.
Nous ne sommes pas capitalisables. Nous sommes ingouvernables.
Une émission trans-pédé-gouine.
Enfin, surtout trans-pédé-gouine.
Et voilà, bonjour à tous. C'est notre première émission en septembre. On a fait une pause de deux longs mois cet été pour pouvoir revenir et proposer plein de nouveaux trucs pour toute l'année. Hein. Voilà, et de cette... On est toujours sur Radio Yanu, hein. On aurait voulu pouvoir changer de radio, etc. Mais bon... nos dossiers n'ont pas forcément marché, du coup, bon. Non, en fait, on aime bien cette radio et une radio DIY comme celle-là. Auto-organisée. On se disait, en fait, on n'a pas préparé d'infos, on est plutôt lay-lay pour la première, on avait aussi envie de ça, je crois, et on se disait plutôt qu'on allait peut-être parler de notre été, etc.
Voilà, et peut-être avant de parler de l'été et tout ça, on a un grand jeu à proposer pour cette émission et peut-être les suivantes, ça va dépendre de comment ça avance, mais du coup on a un grand jeu à proposer aux auditeurs, c'est de nous trouver un nouveau nom pour notre émission. Du coup, une possibilité pour proposer un nouveau nom pour notre émission Transpédéguine et Féministe, c'est d'appeler le studio au 04 78 39 18 15. Ou aussi, si plus vous avez besoin de réfléchir et tout ça, de nous contacter sur notre mail à transpédéguinelyon, sans accent et pas de pluriel, @no-log.org. Voilà.
Bah oui, parce que le collectif, on va dire... de la déprave, c'est fini. Du coup, on ne peut pas vraiment continuer à avoir un nom d'émission comme celui-là. Alors, peut-être plus un nom... N'hésitez pas, hein, un nom fantasy, un nom très carré, je ne sais pas. Hein. On peut s'appeler l'émission Transpédéguine de Radio Canu aussi, pourquoi pas.
Et féministe.
Il y avait une proposition, j'ai discuté avec une copine qui proposait quelque chose, mais je pense qu'on ne va pas retenir parce qu'il est trop... C'est... queer, mais queer, Q-U apostrophe O-I-R, point d'interrogation, vous voyez ? Qu'entendre ? Queer. Et elle est plutôt pas mal, cette proposition, mais en même temps, elle est très ardue, je trouve.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'oral, c'est toujours compliqué de... Les jeux de mots sont plus compliqués à l'oral, parce qu'on les entend pas. Bon, je sais pas si ça se comprend.
Oui, 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 bah oui, c'est pour ça, mon essai toujours. Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Oui, il faudra le tuer, celui-là, d'ailleurs, et toujours... Moi, je suis prête à louer 50 centimes par mois vendredi 13, qui est un nom que j'adore et que je voudrais voir partout. Mais... c'est à l'appréciation.
Mais en tout cas, n'hésitez pas à appeler le studio pour nous proposer des noms. Vous pouvez appeler pendant, pendant les morceaux de musique ou les reportages qu'on va diffuser. Et aussi, n'hésitez pas à raconter si vous avez été dans des événements cet été féministes qui vous ont plu et à appeler pour nous les raconter parce que nous on va parler de certains mais en même temps on les connaît pas forcément tous et si on a un peu d'espoir de nouveaux trucs super chouettes qu'on connaît pas on aurait hâte qu'on nous les raconte. Donc où je répète quand même le numéro du studio, non ? Ou tu veux le répéter ?
Alors le numéro du studio, c'est le 04 78 39 18 15.
Voilà pour l'intro de l'émission. Hein. Peut-être on peut dire, on va parler demain.
Oui, bah oui, parce que il y a eu un trou de 2 mois. Mais pendant les 2 mois, en fait, je sais pas où. Mais moi, j'ai pas arrêté pendant les 2 mois. Il y a eu trop de trucs. Et en plus, que il y a des choses qu'on sait pas parce qu'on peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Ce qui est d'ailleurs des grandes tristesses de ma vie de pas pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. Et donc, il y a eu effectivement plein de trucs. Voilà. Il s'est passé plein de choses. Et ma foi, on a été un certain nombre à y être. Tout le monde n'a pas ramené les mêmes choses. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, on va un peu vous parler des incontournables UEH, parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on y a été, hein ? Parce que toutes les années, on dit on n'y arrive plus, puis à chaque fois, on y retourne.
Et oui, on y retourne. Je précise, UEH, donc c'est Université d'été euro-méditerranéenne des homosexualités qui se tiennent sur le campus de Lumini, près de Marseille, chaque année, en juillet, fin juillet.
Il y a eu aussi récemment la Lady Fest de Dijon. Bref, nous, en tout cas, on s'était dit, on laisse l'émission 2 mois, le créneau libre, pour pouvoir justement bouger à droite à gauche, prendre du son du droite à gauche, rencontrer des personnes pour arriver avec vraiment plein de nouvelles choses aussi pour une année, quoi.
Avant d'entamer peut-être un petit retour sur nos UEH et aussi les UEH d'autres personnes qu'on va entendre, je propose une petite chanson.
Si tu veux.
Et du coup, c'est une chanson de Tribe 8, qui est un groupe de queercore, de punk des États-Unis. Et la chanson, ça s'appelle Wrong Bathroom. Et ça raconte un peu, quand t'es pas dans les normes de genre, comment c'est un peu chiant d'aller aux toilettes. Et ça raconte les péripéties d'une personne qui se fait renvoyer des toilettes de meuf parce qu'elle correspond pas à une meuf et qui est obligée d'aller dans les toilettes des mecs et que ça pue et qu'elle aime pas ça. Et voilà, ça raconte ça.
Ok, c'est parti.
Tender. What's your problem? I ain't got a member. Fine.
Et voilà, on est toujours dans l'émission sans nom, transpédéguine et féministe de Radio Canu. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez des idées de nom. On parle des UH ?
Eh ben oui. Hein.
Ouais.
On ne peut pas faire moins que de parler des UH. Hein,
on va faire un récit de vacances.
Donc on a un petit reportage de personnes qui ne sont pas là, mais on peut déjà commencer peut-être un peu nous.
Bah ouais. Bah comme je disais tout à l'heure, hein, toutes les années on dit qu'on n'y va plus. Moi ça fait je ne sais combien d'années que je dis oh j'y vais plus là. Et puis évidemment j'y suis retourné. Bon après cette fois c'est peut-être vraiment la dernière. Mais bon quand même. Non voilà, moi je veux dire franchement j'ai été quand même super déçu pour un truc vraiment tout bête. L'année dernière, j'avais été aux UH pendant 3 jours et demi. En 3 jours et demi, j'ai quand même fait, après je vais faire ma chieuse, j'ai fait 3 ateliers en non-mixité lesbienne, tout ça, etc. C'était super bien. Cette année, en 10 jours, j'en ai pas eu un seul. Le seul truc de lesbienne, c'était pas du tout les mêmes nanas que l'année dernière. Moi, j'ai même pas osé y aller. Je me dis franchement. Il y a une copine trans qui a osé, et bon, ça va, et ça s'est bien passé. Moi, j'avais la trouille, je vous dis franchement. Mais voilà. Sinon, que dire ? Ben, c'est toujours la même grosse machine, hein, les UH.
Ben, moi, c'était la première fois que je venais. Et vraiment, j'ai trouvé... Sur 10 jours, c'était... Du coup, ça dure 10 jours et c'était vraiment long. Je ne sais pas si c'est par rapport à moi, mais le rythme était très peu soutenu, oui, en termes d'atelier. Et que moi, je venais aussi parce qu'il faut dire... Le titre, pourquoi on venait discuter, c'était aussi autour du féminisme. Moi, je m'attendais aussi à venir discuter, entre autres, à partir de là. Et au final, il y avait très, très peu... il y avait des ateliers à la journée, oui. Mais au final, par rapport au nombre de temps où on restait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait... que ça aurait pu être un rythme plus soutenu et que ça aurait été possible et intéressant aussi. Mais c'est...
Non. Oui, c'est ça. Moi, tu me fais un peu peur quand tu dis genre on y revient. Enfin, le fait d'y revenir, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'y suis allé, ça m'allait pas. Je me suis dit, mais non, mais de toute façon, j'y retournerai pas. Et puis, en 2 ans, on oublie, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. On se dit, non, mais peut-être, ça va être chouette quand même. Et tout ça, je sais pas, j'avais oublié tout ce côté-là des UH, le côté un peu. Après, c'est. Enfin. C'était différent cette année par rapport à il y a 2 ans. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé, notamment où il y avait beaucoup moins de moins le côté gay mainstream qui était omniprésent il y a 2 ans, qu'il était quand même beaucoup moins cette année en termes de proportion. Mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est... Moi, j'ai du mal à en tirer des choses positives. Je peux en tirer le fait de rencontrer des gens qu'on rencontrera sûrement pas ailleurs, qui peut être quelque chose qui, moi, plutôt me plaît. Mais il y a ce côté un peu, ouais, de quelle communauté on parle, est-ce que ça existe vraiment, est-ce que tout ça, c'est... Et puis, ouais, je sais pas, le fait d'être réuni avec des gens que juste, des fois, on supporte pas du tout, enfin, où politiquement, on n'est pas d'accord, et que quand même, on se retrouve ici parce qu'on est transpédéguine, tout ça, là. Et alors que pour autant, on n'a pas grand chose vraiment à partager dans nos vies. C'est un peu spécial, je trouve.
Bon, ce que je trouve quand même marrant aux UH, et effectivement, j'y rencontre des personnes que je ne vois jamais autrement, mais c'est très rarement des personnes que je ne connais pas du tout. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte que je ne fais absolument pas l'effort d'aller voir alors que j'ai un contact avec en dehors des UH. Ce qui est. Bon, bien sûr, il y a peut-être 2 personnes que j'ai rencontrées que je n'avais jamais rencontrées, que je ne connaissais pas. Mais pour dire, je pense que les UH ont aussi un rôle de complément de la socialisation du reste de l'année. Mais bon, et puis bon, pour la seconde question, là, que t'as posé, Annie, moi je trouve qu'effectivement, là, toutes les rencontres dans lesquelles j'ai été, et ça en fait 3 ou 4 cet été, pour moi, elles ont clairement maintenant cassé, enfin, plus que posé la question, cassé la question, je dirais, des cadres dans lesquels, jusqu'à maintenant, j'arrive encore à voir, qui est effectivement des cadres, on va dire, de mixité inclusive, ou de non-mixité inclusive, mais je crois que le lapsus est révélateur. Que voilà, je pense que là, il y a du boulot. Il y a pas mal de trucs là qui ont volé en éclats sur la présupposition, un, d'avoir des intérêts communs, deux, d'avoir une sécurité commune. Mmh. Et que là, c'est clair que pour un bon nombre de personnes, ça le fait plus. Et que c'est un chantier. Pour moi, c'est clair, c'est un chantier. C'est pas un truc là qui se déclare, là, allez, c'est fini, pof, on casse tout. Mais c'est un chantier. C'est un gros chantier. À mon avis, il va falloir réellement, et peut-être à un moment, revenir plus souvent, même si c'est pas toujours, à des non-mixités beaucoup plus ciblées. Puis revenir à la notion de statut. Hein, je suis désolé. L'identité, c'est bien, mais le statut social, c'est quelque chose aussi. On ne choisit pas. Bah ouais. L'identité, on la choisit. Le statut social, on ne choisit pas. Il est là aussi. On ne choisit pas tout dans la vie. Des fois, ben, c'est comme les autres te voient et te désignent que tu es aussi socialement. Il faut admettre.
Ben, on lance le reportage.
Mmh. Ouais.
Donc, il faut rappeler, parce que, je veux dire, aujourd'hui, il pleut et il fait gris à Lyon et tout ça. Moi, il pleut pas, mais c'est tout gris et tout ça. L'avantage des UH, c'est que c'est sous le soleil et à côté des calanques.
Et qu'il y a des incendies. Alors là, cette année, l'incendie, ah, voilà. Vous auriez eu ça. C'est comme les films en 3D, quoi. Moi, à un moment, j'ai eu la trouille, je vous le dis franchement.
Du coup, on plonge dans ce contexte-là, les grillons, le soleil.
Le vent,
le canadair,
les flammes, pour 17 minutes avec quelques personnes qui sont prêtées au jeu d'être interviewées.
Instant pris.
Instant vol.
Instant capturé.
Au UH 2009.
UH.
Les universités d'été euro-méditerranéennes des homosexualités.
Ben bonjour, moi c'est Gaël, ici aux UH, membre du comité d'administration, plus connu sous le nom de CA, voilà. Je suis venu plusieurs fois aux UH, apparemment c'était en 2001 en fait. En 2001 c'était super différent, on était 700, c'était Galande, il y avait 15% de lesbiennes, les trans, les IS, ça n'existait même pas. Après j'ai fait une longue période de... je suis pas venu, et je suis revenu en 2004, 2005, et là... ça avait changé et je viens ici parce que c'est un endroit qui me perturbe et qui me fait avancer. Et voilà, et important pour moi que cet espace-temps existe.
Salut, c'est Flaz. Ben, moi je suis participante et voilà, participante du UH et je viens de Paris. Moi je suis venu aux UH la première fois l'an dernier. Je suis venu parce que toutes les copines me disaient que c'était super, qu'il fallait venir, qu'il fallait absolument venir. Même si l'idée de m'enfermer dans une fac et une CPU pendant... alors c'était presque 15 jours l'an dernier, parce que j'étais mis en temps, me disait trop rien, quoi. Rester comme ça, enfermé entre soi, pour un soi que je n'identifie pas vraiment comme... comme des gens avec lesquels je partageais forcément des choses. Mais on m'avait tellement dit de bien que je suis venu. Et puis bah, l'expérience était quand même intéressante. Donc, je me suis dit, j'ai envie de revenir pour les choses que ça m'avait apporté à l'édition précédente.
Là, c'est une question de quand on détende un ou deux ou trois éléments de choses qui nous plaisent, qui nous motivent, qui nous donnent envie de revenir. Et quelques éléments de choses qu'on trouve à ne pas refaire, qui nous saoulent, qu'on n'aime pas.
Des choses qui me plaisent bien aux UH, c'est les rencontres, rencontrer des personnes. Avec le truc marrant, c'est qu'on rencontre des personnes qui sont lointaines ou des personnes qui sont proches. L'an dernier, j'ai rencontré des personnes que je voyais deux, trois fois par mois sur Paris dans des initiatives avec qui j'avais jamais pris le temps de discuter. Donc de les rencontrer vraiment. Et puis rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres expériences, d'autres questionnements, mais plutôt dans des temps informels, dans des lieux où on est censé faire du partage organisé. ça, c'est une des choses qui me motive aussi, qui me motive beaucoup. Avec les instants, enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est un peu la même chose, avec les instants de vie collective, puisque c'est aussi les instants de vie collective qui permettent beaucoup des rencontres, même si ce n'est pas les seuls. C'est en déambulant simplement à un moment. Une après-midi où il fait chaud, on va commencer à discuter avec une personne. Et puis, voilà.
Ce qui me motive en tout cas d'être aux UH, c'est principalement les moments informels et les moments où on rencontre des personnes et où on a des échanges qui sont intéressants, qui sont pleins de chaleur humaine aussi à certains moments, après à d'autres moments non. Et de partager tout ça, et c'est plus les moments informels en fait qui sont pour moi importants. Et cette année, bon, j'ai pas pu vraiment y participer, donc du coup, je suis un peu frustré cette année sur ce côté-là. Et voilà, et puis après, je trouve aussi que faire ici, on dispose d'un espace qui est quand même assez génial, où on peut faire pas mal de choses. Et par contre, moi, ce que j'ai à dire aussi dans les points qui pour moi, je mets négatif, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment négatif, c'est... Je trouve que depuis quelques années, on perd en qualité d'atelier.
Il y a des choses qui côté négatif. Hein. Bah, il y a plusieurs choses moi, que je vis difficilement aux UH. Hein. Une des choses, c'est malgré les efforts qui sont faits, je suis bien conscient puisque les deux années où je suis venu avec des tarifs ultra réduits pour la participation, justement grâce à la solidarité entre les participants. Quoi. Il y a quand même sur le site, je trouve, le poids économique qui joue, et le bar notamment. J'avais pointé ça l'an dernier, ça a été reproduit cette année. Donc en gros, le bar, c'est pour celles qui ont les moyens, et sinon tu te débrouilles. Et on n'est pas bête, donc on se débrouille. Mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Et puis l'autre chose qui n'est pas vraiment un regret, je trouve que c'est une faiblesse, c'est que pour moi les UH c'est un endroit safe. Donc c'est pas hétérolande dans toute sa splendeur, mais c'est pas un endroit safe. C'est un endroit où on est réassigné, c'est un endroit où on est objectisé sexuellement. On vit avec, c'est pas. Heureusement, il y a plein de personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas comme ça, mais ce n'est pas un environnement complètement sain auquel on évolue tranquillement. Et on se construit nos propres protections individuelles et collectives qui garantissent ça. L'idée de penser que dans un monde hétéronormé, on va pouvoir créer un îlot de choses qui échappe totalement à ça, aux contraintes économiques, aux oppressions de genre, de race, de classe, de validisme, etc. Ça, c'est une conception de l'action collective qui est largement en dehors de la réalité. Mais, donc, c'est bien, quoi.
Et je rajoutais aussi que pour les personnes qui sont dans le minière, et ici c'est quand même compliqué de trouver. Enfin, on est toléré, on ne rejette pas du tout. Simplement, c'est oui, mais tout est compliqué parce que de toute façon, ça se réduit forcément à l'interface qu'on présente. Quand tu ne te définis pas forcément comme F2M ou M2F, mais plutôt, moi j'essaie de visibiliser une chose parce que je ne suis pas identitaire, mais. Parce que je pense que ça peut servir F2U, c'est juste que t'as ta place un peu nulle part. Quoi. Et tout compte fait, de toute façon, l'année dernière, on avait eu un atelier là-dessus. Et en fin de compte, mais ça concerne aussi le milieu en général dans lequel on évolue, qui se dit queer et qui se dit tout ça, que au dernier moment, de toute façon, on te réassigne en permanence, et de toute façon, ce qui compte, c'est ce que t'as ou pas dans ta culotte, quoi. Ou ton caleçon, ou whatever. Et, c'est encore des choses sur lesquelles il y a beaucoup de travail à faire ici aux UH et autre part aussi. Voilà.
Est-ce que vous avez un mot pour définir les UH 2009? Une phrase, une expression?
Méga souk.
Comment?
Méga souk.
En tant que membre du CA, méga dépression.
Merci beaucoup.
Soirée. Slam aux UH 2009.
J'ai voulu lire un texte qui a été écrit pendant l'atelier par Fred, qui n'est pas passé sur scène ce soir. Les déviantes, les perdantes, les perdus, les folles du cul, les affamés de l'âme et les maudites ordinaires, à se regarder, se rapprocher, se reprocher, se raccrocher, s'accrocher aux branches, aux mains, aux gifles, aux coups, les bas, les durs, les inutiles et les gratuits pour finir fatigué, foutu pour la France et un peu fière, à se demander si décidément entre le dehors et le dedans, c'est pas la même désillusion qui nous attend, qui ne les attend pas. C'est juste vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et ce serait dommage que ce soit que ça puisse aussi servir à prendre la parole. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont un petit carnet dans leur poche, qui écrivent tout ça, le soir. Bon, il y en a qui savent faire des sketchs, des blagues.
Ouais.
Non, bon, d'accord. Et bien, c'est bon, on continue. Je suis le chat de Chester, la lapine de Garenne et la noire tentacule. J'ai une chatte, une puile et quand je veux, je t'encule. Je viens te voir ce soir dans ta chambre, dans ta bulle, je vais t'étreindre, t'éteindre. Regarde dehors, ça brûle. Je veux si tu pouvais, si tu pouvais me dire, revenir à l'avenir, ce serait moins nul.
Instant capturé
aux USH 2009.
Je suis Miguel, j'ai 22 ans, je suis de Barcelone. Et à Barcelone, je travaille en tant que sociologue. Et sinon, je suis activiste trans dans des groupes politiques ou dans le mouvement social trans de la ville.
Toi, pourquoi tu viens aux UH? Depuis quand et pourquoi?
Moi, je viens aux UH depuis 2006, 4 ans. Et pourquoi? Parce que la première fois que je suis venue, ça a changé ma vie. Dans tous les sens, je veux dire. Moi, je ne savais pas que c'était possible d'être trans comme ça. Et ça m'a sauvé la vie dans le sens où ça m'a soulagée. Je me suis donné beaucoup plus d'espace. Et ça m'a... C'était de l'oxygène pour moi. Et surtout parce que quand tu peux, parce qu'il y a un truc, en fait, quand tu viens dans notre pays, tu viens aux UH où il y a une communauté française très forte, tu peux observer les mêmes procès qui se passent dans ton pays en tant que spectateur, parce que tu prends pas position, tu connais pas les gens, mais tu vois les mêmes dynamiques. Et ça t'aide, moi quand je reviens et je vois tous les conflits qu'on a, moi ça m'aide pour pouvoir faire une médiation, tu vois, pour pouvoir me rendre compte que c'est pas quelque chose intrinsèque à notre pays et à notre commune, non, c'est-à-dire c'est un truc qui est transversal dans le mouvement social en tant qu'il y a il y a un axe de générationnel, il y a un axe de classe, de capital culturel, de plein de trucs de race. Et tout ça, quand tu vois ça avec des gens que tu connais depuis toute ta vie, tu peux pas comprendre pourquoi lui, il est fâché avec lui. Et puis après, quand tu vois ça de l'extérieur, est-ce que ça donne? Et qu'à la fin, ces gens, ils peuvent bien vouloir se tuer, mais quand il y a une action, ou quand il y a une marche à faire, ou quand il y a quelque chose d'extrêmement grave, ils vont être là ensemble. Et c'est une chose que peut-être entre eux ils se rendent pas compte parce qu'ils se détestent. Parce que toi... Mais après, moi quand je viens, je sens ça, je sens qu'il y a plein de tensions, qu'il y a plein d'histoires. L'année dernière, on s'est tapé trois jours de AG parce que après tu te rends compte que c'est pas gratuit. Je veux dire, c'est nécessaire que ça. Et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un des UH et je lui disais, on a un paradis ici, on a trouvé un paradis. Et il me disait, on n'a pas trouvé. À chaque jour, il faut qu'on travaille pour pas le perdre et il est toujours en danger. Il faut qu'on le construise. Et moi, ça me. Je suis complètement d'accord, en fait, c'est pas un hasard qu'on se trouve aux UH. S'il faut que des gens viennent d'autres pays jusqu'ici, et nous-mêmes on vient ici à chaque année, c'est parce que on se déplace, parce qu'on n'est pas bien peut-être chez nous aussi. Parce que l'espace qu'on construit ici, c'est impossible de le faire chez nous. Je veux dire, tu peux le faire, on a tous notre petite communauté, mais après, comme ça, non, c'est très difficile à voir. Et peut-être ils détestent aussi les UH, mais continuent à venir, tu vois. Et ça, c'est intéressant, en fait. Il y a plein de gens qui détestent le CA, qui détestent tout le monde, qui en ont marre et tout, mais ils continuent à venir. Et c'est ça qui est super fort, non? Parce qu'on en a marre, mais c'est la seule chose qu'on a. Et cet effort de construire, pour moi, c'est super important. Je veux dire, moi, ça me... Voir des gens de notre pays, comment ils fonctionnent, et pouvoir apprendre de leurs erreurs, et de ne pas refaire la même chose chez toi, non? Ça, c'est super. Moi, ça, je trouve super enrichissant. Et après... Il y a plein de choses qui se passent dans les émotions. Je veux dire, tu rencontres des gens qui vont beaucoup te toucher. Moi, par exemple, cette année, chaque année, j'ai un truc qui me... Et cette année, j'ai fait le clic de clic avec les handicapés, par exemple. Le fait que je parlais avec Philippe, qui est un malvoyant, qui est ici aux UH. Et hier, je lui ai demandé, Il y a une question que j'arrête pas de me poser depuis que je t'ai connue, et c'est que pour moi, le genre, le masculin et le féminin, c'est quelque chose de super visuel. Alors le monde, sans pouvoir le voir, le genre, et comment on le voit, le genre? Comment est-ce que les gens sont masculins ou féminins? Comment une folle, par exemple, dans la rue, si tu la vois pas, comment tu sais qu'elle croise en face? Tu vois toutes ces histoires, bon, pour moi, c'est des repères super visuels, et je me demande si j'avais pas le visuel, ou si demain je reste aveugle. Le masculin et le féminin, comme, dans quel repère je vais aller? Et puis il me répond, en fait, le premier jour que tu es venu me parler, quand tu m'as dit bonjour, je savais que tu étais un FTM. Que tu étais un FTM. Ça m'a pris la tête. Et je dis, mais comment tu pouvais savoir? Et il me dit, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, et c'est évident, qui ne sont pas visuels, dans le comportement des gens. Comme pour moi, j'avais pensé peut-être la visibilité FTM, c'était un truc de visuel. Pas aussi quelque chose dans le comportement, dans la façon de parler. Et toute cette gradation du noir au blanc, toute cette masculinité, il y a des butch, il y a des FTM, il y a des hommes trans, il y a des transgenres, et tout ça, c'est des choses qui sont aussi dépendantes du comportement. Ça, d'un côté, après, toutes les questions par rapport aux handicapés, par exemple Sébastien, qui est dans sa chaise, et qui peut-être, pour se communiquer, a aussi des difficultés, et qui a une sexualité aussi, je veux dire, et il est là pour ça, et c'est des questions que je m'étais jamais posées. Et là, je reviens chez moi, où évidemment, c'est un sujet impossible. Et c'est un autre truc qui m'enrichit. Et qui me... Ou par exemple, tous les trucs chez nous, ça se parle pas du tout. Le truc de la race, par exemple. Le féminisme racialisé ou les espaces non mixtes racialisés. Ça, c'est du chinois. Et voir comment les gens, ils se prennent la tête et vraiment, ils donnent une importance à quelque chose que toi, tu n'étais jamais... C'est vrai, on est tous des blancs. J'avais jamais pensé à ça. Et c'est pour ça, c'est des choses comme ça qui, pour moi, font l'intérêt des UH politiquement, je veux dire. Ça te donne toujours un truc que tu n'avais jamais pensé. Quand tu reviens, tu t'es enrichi. Et c'est super positif.
Tu peux donner un mot pour toi qui résume les UH de cette année? Un mot, une expression?
En fait, il y a une expression espagnole qui est assez adaptable, qui dit « Más vale pájaro en mano que ciento volando ». Et ça veut dire « Il vaut mieux avoir un oiseau à la main que 100 oiseaux en train de voler ». Je ne sais pas si je m'explique. Pas du tout. L'expression, elle veut dire qu'il vaut mieux avoir quelque chose, même si c'est peu, mais l'avoir et la comprendre et pouvoir la... que d'avoir plein d'idées, plein de, tu vois, d'utopies comme ça en l'air que tu ne vas jamais pouvoir toucher. Et pour moi, cette année, c'est vrai qu'il y avait moins de gens, c'est vrai qu'on a perdu plein de gens d'autres pays qui étaient par exemple toute la communauté arabe, les Portugais, qui étaient, c'est des gens qui donnaient un truc super intéressant aux UH, parce que sinon, je veux dire, pour retrouver les Parisiens à Marseille, ça n'a aucun intérêt. Et je pense qu'ici, il y a une majorité de Parisiens. Et c'est quelque chose que tout le monde, ceux qui ne sont pas parisiens, vivons de la même façon, c'est-à-dire c'est comme un grand ghetto de Paris, puis plein de gens qui viennent après. Et au fait, finalement, tu te fais beaucoup plus avec les gens qui ne sont pas de Paris, parce qu'ils viennent aussi en quête de trouver d'autres choses. Pour moi, cette année, il y avait moins de gens, on a un passé proche de tensions. Et je pense que tout le monde avait très attention à ne pas faire de conflits super forts. On a tous essayé de bien communiquer entre nous. Et il y a eu la place, moi j'ai eu... Ça fait 4 ans que je viens et cette année j'ai bien connu les gens. J'ai pu parler avec les gens et faire des conversations super profondes et pas juste leur passer mon mail et on s'écrira. Non, j'ai connu des gens, on a parlé, on a partagé. Il y avait moins d'ateliers, mais les ateliers, ils étaient beaucoup. Les gens qui sont venus, c'était des gens beaucoup plus politisés. Et les ateliers, il y en avait plein qui étaient pleins. Et les gens, je veux dire, il y a eu un débat. Je pense que ça nous a enrichi et que c'était nécessaire. Ce point d'inflexion, de attention, parce qu'il faut, prendre soin des choses.
Yébé.
Donc c'était Mickey, c'était Flaz, c'était Nayel et c'était en slam Audrey et
Marie-Laure.
Donc un petit aperçu parce qu'il y avait 200 personnes en même temps. Hein. Quelques points de vue de ci de là.
Eh ouais, ça fait drôle de réentendre ça. À 2 mois de distance.
C'était loin déjà. Hein. Il s'est passé tellement de choses.
Oui.
Entre temps. En fait, pour essayer de situer, du coup, c'est sur un campus. La journée, il y a des ateliers qui sont organisés sur le, sur le campus. Et le soir, il y a des soirées à thème ou sans qui sont également préparées. Et on dort dans un bâtiment, des chambres d'étudiants, quoi. Et il y a une journée au sein des 10 jours qui est un colloque et qui est dans Marseille. Du coup, c'était à la Maison des Associations à Marseille, là, le mercredi, le jour où a commencé l'incendie, et qui traite du thème de la semaine. Et là, c'était autour du féminisme, relations intercommunautaires et féminisme, exactement. Et ça, c'était un peu, c'est le temps au milieu de la semaine qui est censé être un temps voilà, d'échange qui permet aussi de rebondir pour continuer la semaine ensuite, quoi. Et ça permet aussi à des gens qui sont de Marseille et qui ne viennent pas à l'UMINI de venir écouter les conférences, à peu près.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'espace public à ce moment-là des UH, c'est-à-dire qu'on est à Marseille et que normalement, toute personne peut participer. Bon, après, je sais pas quelle pub ils font en dehors, mais normalement, toute personne peut participer à ces conférences. Ah ouais, ce colloque, quoi.
Oui, c'est un peu un échange aussi, historiquement. Le colloque, c'est un peu un rendu des UEH, parce que c'est quand même des sous de la région et du département. Et ces UEH aussi rendent un peu ce qui se passe dans les UEH de manière plus publique à cette occasion. Hein. Les autres années, d'ailleurs, il n'y a pas eu. Les autres années, ça se termine toujours par une espèce de petite manifestation sur le sport. Là, il n'y a pas eu. Bon, je sais pas. Alors, dans le temps, il y avait un sport, c'était on ne va pas au colloque, le grand sport des UEH. Et cette année, en fait, beaucoup plus de personnes, peut-être justement à cause du sujet, moi la première, y ont été. Alors que je n'avais jamais mis les pieds au colloque. Et que beaucoup n'avaient jamais mis les pieds au colloque. Et effectivement, il y avait des trucs voilà, qui étaient bien intéressants. On va peut-être justement parler de quelques-uns des articles de ce colloque, hein, puisque c'était découpé au cours de la journée en heures sur des thèmes et avec des intervenants et des intervenantes.
Ouais, c'était une journée très dense.
En fait, je crois les années d'avant, c'était vraiment le grand sport, enfin le combat colloque contre calanque, en gros. Moi, je me souviens, c'était un peu ça, c'est-à-dire il y avait toutes les personnes qui allaient au colloque et toutes les personnes qui allaient au calanque, parce que justement, il y avait un truc de un peu déserter les colloques sur les années d'avant.
Mais alors, je sais pas, je peux parler un peu. En fait, bref, il y a eu certaines interventions qui ne m'ont pas forcément parlé. Du coup, j'ai pas vraiment envie d'en parler ici même à la radio. Je veux bien parler, en fait, il y a une présentation du groupe, d'un groupe de Barcelone, transféministe, du coup, qui est un réseau, en fait, réseau intersexe et trans, mais qui est un réseau avec participation mixte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes trans, intersexes et des personnes bio qui participent à ce réseau. Et l'idée, c'est vraiment de mener des actions politiques à Barcelone pour créer une visibilité et de l'information et du contenu politique autour des transidentités. Et notamment, un des aspects que j'ai trouvé très intéressant que la personne qui présentait a amené, c'était de faire le lien avec des luttes féministes qui existent depuis des années autour de l'avortement. Et du coup, je précise, en fait, il y a une clinique, du moins un hôpital qui est aussi une maternité à Barcelone, où ils font des avortements thérapeutiques pour des femmes enceintes qui portent des embryons intersexes. Et du coup, c'est questionnable parce que intersexe, ça n'empêche aucunement de vivre et de vivre au sein de cette société. Et du coup, à partir de là, ils ont essayé de monter des actions et aussi d'aller chercher des féministes. C'est-à-dire à un moment donné que ça soit vraiment à partir d'arguments sur les transidentités, et mais surtout d'un point de vue féministe. Et je sais pas, moi ça m'a fait du bien en fait d'entendre ça, de voir des gens qui se questionnent là-dessus, de prendre des sujets aussi là-dessus, c'est assez compliqué. Je veux dire, c'est aussi avec certaines féministes aller au casse-pipe que de proposer des actions autour de ça. Et du coup, j'ai vraiment apprécié leurs interventions, quoi. Un des points du colloque.
Voilà, un des autres points, il y a eu un... Bon, ça, j'allais dire, on s'y attendait, parce que ça fait partie des grandes questions qui, comme on dit, divisent le féminisme. Hein, et, une intervention sur le travail du sexe, hein, moi que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je dis franchement, c'est Cadine des Putes, qui est un groupe dont je fais partie, mais je n'aime pas toujours la politique de ce groupe, qui est une politique, je trouve, un petit peu spectaculaire, du genre, la prostitution, c'est très simple, c'est facile, c'est bien pour tout le monde, etc. Bon, on est un certain nombre maintenant à commencer, y compris à Lyon, à porter un discours de attention, c'est pas non plus, on est dans un monde où c'est stigmatisé, on est dans un monde où les relations sont ce qu'elles sont, c'est pas forcément facile. Et donc, moi, je trouve Cadine, elle est vraiment géniale. Elle a vraiment porté un discours que j'ai trouvé super équilibré, qui est à la fois qui est intransigeant sur la défense du droit à la prostitution, mais vraiment absolument intransigeant, mais qui n'est pas essayer justement de justifier cette intransigeance par, j'allais dire, le château des merveilles, quoi. Ce qui est malheureusement, je trouve, aujourd'hui, je parle en tant que travailleur du sexe, hein, un peu un des trucs que je trouve qui dérape un petit peu, je trouve, dans le pays. On a eu d'ailleurs un autre atelier entre travailleurs du sexe là-dessus, où justement la question est très nettement posée, c'est que quelle image on donne aussi aujourd'hui du travail du sexe, que défaire l'image, stigmatiser, ça ne veut pas dire forcément déclarer que c'est la maison en pain d'épices. Hein. Et moi, je l'ai trouvé vraiment très bien. Alors, évidemment, les réactions. Alors, très, très intéressant, les réactions au colloque. J'ai l'impression que la plupart des gens, quand même, regardaient un peu leurs chaussures. C'était du genre, on n'est pas forcément à l'aise, on n'ose pas le dire. Et puis, deux, trois, vraiment les vieilles chieuses. Mais bon, voilà, après, je préfère encore les personnes qui disent franchement des fois, ou personnes qui ne disent pas.
Non, mais ça a permis à Cadine de faire des interventions géniales et de contrecarrer d'une manière très classe et forte les personnes qui revenaient toujours sur la même chose. Mais c'était très efficace, quoi.
Oui, d'ailleurs, en plus, une de celles qui était, c'est une vieille... une vieille présidente de la CNL qui nous a déjà saboté aux UH il y a quelques années à un atelier sur les violences entre femmes en disant qu'il n'y avait pas de violences entre femmes et qu'il n'y avait pas de rapport social entre femmes. Ça, je trouve absolument génial. Il y avait sa copine à côté qui regardait ses chaussures, on disait purée, le rapport de violence entre les deux, ça va être pas mal. Voilà. Et bon, il y avait des trucs plus complexes d'ailleurs, hein, aussi dans cet atelier, enfin dans cet atelier, dans ce rendu, puisque c'était un rendu, mais il y avait quand même une discussion là en colloque. Il y a des trucs plus complexes, effectivement, de la question du choix, que veut dire le choix dans un monde où le choix absolu, ça n'existe pas et ça n'existera jamais, c'est un peu un fantasme. Vraiment, vraiment, trouver des... Moi, je tire vraiment en plus mon chapeau à Cadine pour le calme qu'elle a montré, parce que je veux dire, j'aurais été à sa place, je me serais énervé. Et qu'elle, vraiment, pom, pom, pom. Bravo, Cadine, encore une fois.
Je crois qu'on était plein à bouillonner devant des réactions de personnes et de voir le calme qu'elle avait et ses réponses hyper carrées. C'était vraiment... Enfin, ça faisait du bien, c'était juste jouissif, en fait, de voir à quel point elle rentrait dedans dans un truc hyper calme, hyper carré, où juste ça laissait aucune chance. Enfin, et moi, je vais faire un retour rapide aussi sur... donc ce retour de l'atelier qui s'appelait Nous chez vous. Donc Nous chez vous qui était un atelier qui a été proposé d'abord en non-mixité racialisée, puis en mixité. Et donc cet atelier, il est parti d'une réaction en fait suite à la proposition du colloque qui parlait d'un féminisme non blanc sur le colloque. Et du coup, il y a des féministes racialisées qui ont commencé à s'interroger sur mais qu'est-ce que c'est que le féminisme non blanc pour elles, et quand est-ce qu'elles avaient entendu ce terme-là apparaître et qui l'avait fait apparaître. Elles ont commencé comme ça en groupe non mixte racialisé à du coup à se questionner sur le terme non blanc, en se disant qu'en fait les premières fois qu'elles ont entendu le terme non blanc, c'était dans la bouche de personnes blanches. Et voilà, à travailler là-dessus, et notamment aussi à travailler sur cette question d'un féminisme non blanc en France, où ça leur posait question, dans le sens où elles, dans le groupe qu'elles ont fait, ce groupe non mix racialisé, elles se sont rendues compte qu'elles étaient effectivement des féministes racialisées, mais toutes n'avaient pas le même féminisme, et que du coup elles pouvaient pas dire qu'il y avait un féminisme, en tout cas non blanc. Et aussi le terme non blanc, ça les interrogeait aussi sur ce truc-là de dire ok, on nous regroupe tout dans un grand fourre-tout là qui est non blanc, qui est en plus la négation du terme dominant, et que ça leur correspondait pas. Et...
mais juste aussi sur un truc, c'est aussi ce qu'elle disait, c'est que surtout elles n'étaient pas de classe sociale les mêmes, et que elles avaient l'impression que toutes elles étaient racialisées, et que en même temps il y avait vraiment des différences de vécu énormes, mais qui se jouaient beaucoup plus sur la classe sociale que vas-y, continue.
Non, voilà, et du coup voilà, c'était un retour de cet atelier qui était plutôt intéressant, le débat. Moi, j'ai peu de souvenirs du débat, j'ai l'impression que plutôt ça tournait en rond. En tout cas, le retour de l'atelier, je pense que ça fait partie. Ces trois ateliers qu'on a pointés, ça fait partie des ateliers que peut-être sûrement on pourra diffuser sur Radio Canu dans des prochaines émissions.
Et là, on va enchaîner avec une chanson. Vous avez entendu dans le reportage avant des petits bouts de cette chanson. On va la diffuser en entier. Et du coup, c'est une chanson de Adja Pekkan. C'est Ur Dordum Ur Yasharim. Et en fait, elle dit à l'intérieur, en gros, qu'elle a de compte à rendre à personne, de pourquoi on se mêle de ma vie, et est-ce que je suis ton esclave, pourquoi tu te mêles de ma vie. Alors, c'est parti.
Maintenant un peu, oui, bah il y a ce qui s'est passé, et puis ben, il y a quand même ce qui va se passer. Le monde ne s'est heureusement pas arrêté de tourner. Apatia, voilà. Un endroit où on dit toujours qu'on va pas y revenir, et si on va revenir, moi je vais revenir, tiens, l'existence. Une magnifique existence. Et ben ouais. Voilà, existence. Alors cette année, existence, c'est pas le premier, c'est le second samedi d'octobre, c'est le 10 octobre. À Paris, évidemment, on n'a toujours pas réussi à faire qu'il y ait une existence ailleurs. Ça viendra. J'aime bien qu'il y ait ça, hein, quand même. Bon. Et voilà, on espère un peu qu'il y aura des inflexions peut-être plus féministes, justement, lors de cette existence. Peut-être un peu moins uniquement, notre petite corporation. Pensez un peu aux autres, comme dit toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre par rapport à l'existence?
Par exemple, il y a eu un atelier aux UH de personnes de Barcelone qui en fait, il y a un groupe qui s'est monté, en fait, c'est pas un groupe, c'est plutôt une action politique et publique, parce qu'il va y avoir en 2012 le DSM-5. Qui regroupe toutes les pathologies, et le but de cette action, c'est d'enlever de ce livre les transsexuels, etc.
Oui, d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est même que ce livre disparaisse.
Voilà.
Ça fait penser aux copines qui se font toujours engueuler parce qu'on est devant les prisons et ils veulent libérer tous les prisonniers, quoi. Pas seulement celui-là, celle-là, pas un troisième éventuellement. Moi, je dis carrément, on supprime le DSM, ce sera encore plus simple. Parce que là, ça prend pas un bon chemin. Hein. Il faut savoir, en tout cas, je sais pas par rapport au reste, mais à mon avis, ça va pas être mieux par rapport aux tous les autres personnes stigmatisées qu'aux trans. Ça prend vraiment un sale chemin actuellement, hein, qui est effectivement une initiative contre ça, c'est pas trop. Hein.
Ouais, et l'idée, c'est de, du coup, c'est l'action en tant que telle, elle s'appelle Stop Pathologisation 2012. Et en fait, il va y avoir des actions un peu partout. La plupart des existences des autres villes en Amérique du Sud et aussi aux États-Unis
et en Europe
vont se passer le 17 octobre.
Il n'y a que Paris qui déroge à la règle.
Il y a à Paris, effectivement, c'est le 10 octobre, parce qu'il y a une autre manifestation féministe le 17. Mais peut-être il se passera le 17 octobre aussi en France d'autres choses. Je pense, peut-être on peut en dire un peu plus quand même sur ces... Ouais, sur notamment le DSM, ce que tu disais, etc.
Je crois, moi, les infos que j'avais eues, c'est notamment un des trucs qui fait plutôt peur dans le prochain DSM, donc qui sera le DSM-5, c'est que un des responsables, il travaille par groupe, en gros, sur les déviances, les machins, les bidules, et que une des personnes responsables qui s'occupe de ce DSM-5, c'est un médecin hyper connu pour ses traitements aux électrochocs dans des cliniques pour notamment soigner l'homosexualité et tout ça, et que c'est lui qui se retrouve catapulté à la tête d'une des équipes qui produit le DSM-5, et que du coup plutôt c'est des vrais méchants qui sont assez...
des fous furieux, on peut même dire.
Des fous furieux. Ça leur va bien. Et aussi, on m'a parlé d'un groupe sur Paris qui a envie de mettre en place, après le 10 octobre, un mois d'information, de petites actions, etc. Sur les transidentités. Et du coup, ce qui mène jusqu'au 20 novembre. Et du coup, c'est un appel, en fait, je crois, de ce que j'ai bien compris de ce groupe, c'est un appel assez large à toutes les personnes qui ont envie de faire des initiatives. C'est les bienvenus, quoi. Et moi, je sais pas encore le programme de s'il y a des choses vraiment qui ont prévu de se passer encore.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y avait la campagne.
La campagne.
Le stage à la campagne.
Ah ouais, le stage à la campagne, c'est vrai.
C'est vrai que c'était la campagne.
Et oui, c'est ça, c'est que en fin août donc de cette année-là, c'était il n'y a pas si longtemps, du 21 au 25, s'est passée la première rencontre d'autodéfense en non-mixité trans. Et du coup, on était là-bas. Et c'est sûrement des rencontres qui devraient se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, on espère en tout cas. Vous voulez en parler un peu plus?
Ah ben moi, je veux dire, c'est, je suis pas, on sait, je suis pas tellement prodigue de bonnes impressions. C'était réellement ce que j'ai vécu le mieux cet été, et pas pour rien. Je veux dire, c'est le seul endroit où j'ai eu l'impression qu'il y avait une réelle attention des personnes les unes pour les autres. Hein. L'impression de la plupart des autres rencontres où j'ai été, mais juste tout le monde était dans sa bulle auto, je sais pas quoi, et que là, je sais pas, il y avait réellement un souci, et ça m'a fait un peu, ah, me dire, ah, c'est encore possible. Ah bah, cerveau trans, ah bah, et bah voilà, des fois, mixité, ça n'est bon.
Puis voilà, et puis il y a, je crois, une envie aussi sur l'existence de faire apparaître des personnes un peu là comme nous, qui sortent, disent féministes aussi.
Ah bah oui, de toute façon, la des têtes de cette rencontre, c'était trans et féminisme. Hein, c'était clairement, voilà, c'était pas uniquement on est trans, voilà, hop, boum, clac, tout est plié. Hein. Moi, je pense que c'est effectivement super important. C'est-à-dire, bon, on ne crée pas non plus des communautés à partir de rien, si on veut absolument en recréer. Et je pense que féminisme, bah, c'est quelque chose qui est toujours, toujours à ramener.
Et on voulait vous mettre, pour continuer l'ambiance des UH, un slam qu'une personne a fait, qui est, du moins, a donné. Donc ça vous va si on le met maintenant?
Ah ouais, mmh. Oui, bien sûr.
Donc préparez-vous.
Instant pris.
Instant volé.
Instant capturé.
Aux UH 2009.
Soirée.
Slam.
Je ne veux pas qu'elle s'introduise, 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 je ne veux pas qu'elle s'introduise. Mes seins trop durs à force d'être frottés, mes seins trop durs à force d'être serrés, 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 ses réflexes laissent courir ses mains sous la bande rugueuse qui me contraint. J'aime être contrainte. La phrase fuse d'une bouche à l'autre, diffuse, et je ne sais plus rien d'autre qu'un torse découpé à la langue, un ventre pas dans la salive et plus bas une lubrification active, captive. J'aime être contrainte. La phrase fuse et s'ensuit une phase confuse où les membres se heurtent d'un corps à l'autre et je ne vois plus rien d'autre qu'une nuque sachée, qu'une fesse marquée, qu'un coude léché, liquide séché sur une cuisse chevauchée. Je veux lâcher les doigts qui fouillent, mais je ne veux pas qu'elles s'introduisent. Entre les omoplates, coulée froide d'une lame au coudé franche, bouffée fraîche sous le tissu tranché. Mes seins trop durs à force d'être pincés, mes seins trop durs à force d'être pressés, pressés, pressés. Précipitation de sa bouche contre mes tétons persécutés. Et déjà, je n'entends plus rien d'autre que le cri de la chair sous la peau, que le chuchotement du cuir contre le cuir, que le rire liquide du silicone branlé et les aigus grinçants d'un crâne rasé. Entre les omoplates et jusqu'aux lèvres ouvertes, les morsures écloses, le poids chasse l'air. Poumons vides, yeux pleins d'étoiles ivres, gorge étranglée, au bord du vertige, sang retenu, le sang retenu dans mon crâne mime des coups. Ses mains bougent par un coup, mes reins accusent le coup et je ne veux pas qu'elle s'introduise. Je ne suis plus qu'un vagin vagabond, soumis à une main qui déviait, un vagin battant guerre avec ses sursauts comme mitraillette, et même émerveillée, et même si elle me dit qu'elle m'aime et mène le jeu entre mes jambes, je ne veux pas qu'elle s'introduise dans ma vie. Merci.
Et voilà, c'est un peu la fin de l'émission.
Je pense qu'on rediffusera. En fait, c'était une soirée pleine de slam qu'on a enregistrée, même si le son n'est pas le meilleur qu'on ait.
Et
je pense qu'il y a moyen qu'on en remette peut-être à d'autres émissions en fonction des thèmes, etc.
Du coup, on se voit dans 2 semaines sur Radio Canu. Et la semaine prochaine, c'est Martine, Lilith et les autres.
Et dans 2 semaines, c'est une émission avec un nom.
On aura un nom. Et du coup, on se quitte avec la chanson de Scream Club, Spit and Glitter, qui veut dire crachat et paillettes. Et c'est un gang de femmes qui sévissent dans les rues.
Eh ben, bonne semaine à vous.
Salut.
Bonne quinzaine.
My face in various places, aloneness enough to spark some conversations, some complications might arise when you don't understand what's in front of your eyes. Try to shove me out and box me in and end up with a butterfly knife under your chin. I'm walking the streets like I own the whole city, and tonight I got my own girls rolling with me, well aware that some don't fight fair. They have sharp razor blades hidden in their hair, and they walk with stilettos, with daggers for heels, with dildos and holsters of chromium steel and studded belts to rip you into shape. Fishnets to cash bait, perpetrators of rape. Mess with the crew would leave you confused. Seal up your lips with some fake eyelash glue. Ready for any fight you could pick with them. They walk around with purses with heavy bricks in them, spitting venom, switchblades with them, giving out free homemade circumcisions. Are you next? Do you want a piece of this? Let me introduce you to my friends. First meet the fist, I'm a feminist first, then a virion second, and I make sure my interests get protected and views projected into the world. To my high class and outcast army of girls, if you're hot on our trail, it's not hard to find us. We always leave traces of glitter behind us. Chaos and gold, freedom, control. 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 The people when I come through town with an interpretive dancer that follows me around. It's a secret circus, a private committee that decided to bring the jungle into the city with color and fashion, madness and style. In the court of sex appeal, this record is on file, and we all stand on trial in front of a jury of peers. But is your judgment based on desire or fear?
If you want sweat and diamonds, I'll show you where to find them. There's no going back like a busted hymen, like cats that are wild, kept in a cage. You're best to get out of the way of the rampage. We're taking back the night, you can feel it in our cries. We take power from the tears that fall from our eyes. Desperate love flows through my veins, so I feed on hearts to stop the hunger pains. Chaos and gold, freedom, control. Chaos and gold, freedom, control.